Radio Okapi.
Des affrontements entre les FARDC et les combattants du groupe armé Zaïre ont lieu depuis ce lundi matin dans la périphérie du village de Djina, dans le territoire de Djougou en Ituri. Le bilan provisoire est de 3 blessés graves ainsi que la paralysie des activités socio-économiques. Plusieurs édifices privés et des bâtiments officiels ont été endommagés à la suite de la pluie d'hier à Bandundouville, province de Kwilu. Les familles sinistrées demandent de l'aide à la communauté et aux autorités. Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, est l'invité de ce journal. Il va parler de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. En Ituri, des affrontements opposent depuis ce matin les FARDC aux combattants du groupe armé Zaïre dans la périphérie du village de Djina, entité coutumière située à 35 km de Bounia dans le territoire de Djougou. Le bilan provisoire est de 3 blessés graves ainsi que la paralysie des activités socio-économiques. Dimanche, au moins 6 personnes ont été tuées dans une embuscade tendue par des présumés éléments de la milice Codeco contre une patrouille de l'armée ougandaise à Lida, dans la même entité territoriale. Récit des faits, Jean-Claude Lokidile.
Tout a commencé par l'incendie d'un campement vide des soldats des FARDC à Tchourou par des éléments de la milice Zaïre, affirme une source de sécurité. Quelques temps après, c'est à Liko, l'un des bastions de ces miliciens, où des affrontements ont commencé aux petites heures du matin entre les deux parties. Les casques bleus népalais de la MONUSCO ont réussi à évacuer 3 personnes blessées par balle et sont acheminées à la base de la mission onusienne de Djina, où par ailleurs plusieurs habitants ont trouvé refuge. Une personne a reçu une balle dans la tête, un deuxième habitant est touché à l'abdomen. Un militaire des FARDC est également blessé au bras. Un autre incident est celui enregistré dimanche à Lida, non loin du centre commercial de Boulé. D'après une source, c'était une embuscade tendue par la milice Codeco contre une patrouille de l'armée ougandaise. Le bilan provisoire est de 6 morts dans les deux camps et plusieurs blessés. Ces chiffres ne sont pas encore confirmés par des sources officielles. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Okapi.
Insécurité encore, cette fois-ci au nord Kivu. Des habitants de plusieurs villages de la chefferie de Wito dans le territoire de Rutshuru quittent leur milieu. Ils fuient des combats intenses à l'arme lourde dans la zone de Bambo et Tongo depuis quelques semaines. D'après nos sources, au moins 9 personnes ont été blessées hier matin par des éclats de bombes à Rukamba et Kagano. Ces blessés sont pris en charge à l'hôpital général de Bambo. Certains notables du coin appellent les humanitaires à suivre avec attention les conditions humanitaires que traverse la population en errance. Plus de précisions avec vous, Rachel Kessé.
Une accalmie relative s'observe ce lundi dans la matinée dans certaines localités de Bukombo et Tongo. Ce après des violents combats à l'arme lourde rapportés dans plusieurs villages, notamment à Kojo, Moucha, Makomalehe, Bundase, Butare et ailleurs. Une vague d'habitants fuyant ces détonations se dirigerait vers Bambo et d'autres dans la brousse. Les sources locales s'inquiètent de l'utilisation, selon elles, des armes à longue portée dans cette région. Ce sont notamment des bombes qui seraient lancées par les rebelles depuis Kaunga dans les parcs des Virunga près de Kiwanja et qui atteignent Kirumba et Kagando dans les Bwito, une trentaine de kilomètres de distance. C'est là que des civils ont été blessés hier dimanche, expliquent nos sources. Elles affirment en outre que parmi la population qui se déplace, des femmes, enfants et vieillards traversent des conditions humanitaires précaires. Ces derniers plaident pour qu'une assistance humanitaire soit organisée dans la zone. Appel lancé notamment à l'endroit des ONG, MSF et le CICR présents dans la zone en faveur de la population déjà appauvrie par l'insécurité quasi permanente. Rappelons que le week-end, les Wazalendo ont réussi à récupérer deux grandes agglomérations de Kishishi et Bambo au cours de ces affrontements violents. La situation reste incertaine dans la zone, s'inquiètent plusieurs personnes.
Au nord Kivu, au moins 3 personnes ont été tuées et 10 autres blessées par balle ce week-end dans l'agglomération de Katoi, territoire de Masisi. Selon les sources des notabilités locales, les faits ont eu lieu dans la journée de samedi. Elles affirment que le meurtrier présumé est un combattant du groupe armé d'un certain Obedi Makuba opérant à travers le secteur de Katoi. Selon ces sources, en état d'ébriété, ce présumé Muzalendo aurait ouvert le feu sur la population. D'autres sources locales parlent plutôt d'une dispute entre ce milicien et les autres combattants du groupe PARECO au sujet du contrôle des barrières illégales. Dispute qui se serait soldée par des échanges de tirs causant des victimes collatérales parmi la population civile. L'insécurité refait surface dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo. En moins de 2 semaines, 3 conducteurs de taxi-moto ont été assassinés par des hommes armés non encore identifiés. Ces actes d'insécurité sont commis même dans des maisons des particuliers dans différents quartiers. La population demande aux autorités d'envisager des mesures pour la sécurité de la ville. Et puis, dans le Haut-Katanga, le domicile de l'ancien gardien du tout-puissant Mazembe a été vandalisé à Lubumbashi par certains jeunes se réclamant d'un parti politique au pouvoir, à en croire des témoins. D'après un membre de sa famille, l'incident s'est produit samedi dernier. Pendant qu'un concert se déroulait dans la terrasse de Robert Kidiaba, certains invités ont eu des démêlés avec des servantes et se sont mis à casser les meubles. Ils sont partis ensuite s'en prendre à la famille de Robert Kidiaba qui habite dans la même concession. D'après la même source, la femme de l'ancien gardien de Mazembe et 2 de ses enfants ont été blessés. Ils ont déjà porté plainte. Nous apprenons aussi que l'un de ceux qui ont sémé les troubles est aux arrêts. Au Kasaï oriental, toujours en plus bref, 3 blessés graves et 5 maisons incendiées, c'est le bilan d'une bagarre à la machette entre les membres de 2 familles de la localité de Lembalemba dans le territoire de Kabeakamwanga. D'après l'administrateur de territoire, les 2 familles se disputent depuis quelques mois les limites de leurs parcelles non bornées. Un des protagonistes est déjà aux arrêts et les blessés suivent le soin dans un centre hospitalier de Tchikula, affirme la même source. Une forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue hier sur la ville de Bandundu au Kwilu, causant des dégâts matériels importants. Habitations privées, bâtiments publics et maisons commerciales et plusieurs autres édifices sont gravement endommagés. Par exemple, les locaux du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Kwilu, où certains dossiers sensibles et des documents administratifs essentiels sont détruits par les eaux de pluie. Les familles sinistrées lancent un SOS. Ici à Kinshasa, le boulevard Lumumba continue à se dégrader sans aucune intervention pour le réhabiliter. Constat amer des usagers de cette route au niveau de plusieurs arrêts des taxibus partant de l'arrêt des Bonhommes jusqu'à Bibwa. Le délabrement très avancé de ce boulevard est aussi un des facteurs de plusieurs embouteillages, parfois monstres. Des détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Il n'y a plus d'aisance à se déplacer sur le boulevard Lumumba pour atteindre l'aéroport international de Ndjili, voire aller au-delà. La dégradation alarmante de la route rend difficile la circulation. Déjà au niveau de l'arrêt des Bonhommes, premier obstacle, pas facile de traverser sous le saut de mouton qui s'y trouve. L'endroit est jonché de nids de poules ainsi que les étangs artificiels qui se sont créés. Vrai calvaire pour plusieurs Kinois qui doivent y affronter des embouteillages monstres. Deuxième obstacle, le tronçon compris entre l'entrée du quartier 1 et l'entrée boulevard Kimbuta. On ne sait plus reconnaître une route asphaltée sur ce tronçon. Tout est couvert de boue mélangée avec des débris de goudron, des ordures, des bouteilles en plastique éparpillées ça et là, dégageant parfois des odeurs nauséabondes. La même situation est perceptible sous le saut de mouton du marché de la Liberté et Pascal. Troisième obstacle, ici la dense population qui emprunte la route Mokali et ceux qui se dirigent vers Mikondo se disputent le tronçon avec le véhicule et le motard. Au-delà de l'aéroport, à la hauteur de Efobank et Bibwa, les conducteurs, par manque de route confortable, ont créé un milieu de boulevard de passages interdits dans de boue.
La province éducationnelle Maniema 1 lance officiellement ce lundi la session d'information dédiée à l'enseignement du cours d'informatique dans les écoles primaires. 20 écoles sont sélectionnées pour cette première phase, précise le directeur de la province éducationnelle Maniema 1. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'informatique 2011, ajoute-t-il. Mutuo Balingene Jacques est au micro de Florence Kizalunga.
En fait, c'est puisque les gens ne sont pas informés, vous voyez, que l'informatique fait partie des cours qui doivent être donnés à l'école. Donc, de la maternelle jusqu'à la fin du cycle secondaire. Mais malheureusement, ce cours n'est pas assuré. Pourquoi? Puisque les gens n'ont pas été formés sur l'informatique. C'est ainsi que nous voulons lancer une série de formations pour que tous les enseignants soient formés pour que ces cours-là soient assurés à l'école primaire et à l'école secondaire. Le gouverneur, vraiment, nous le félicitons pour le geste qu'il a posé, puisque avec cet ordinateur, nous allons voir comment les enseignants peuvent être être formés, oui, dans le centre des ressources des enseignants de Kindu. Mais aussi, il fallait normalement que le chef d'établissement soit à même de se doter, puisqu'en fait, ils ont des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement peuvent aussi payer des ordinateurs. Si on a ça en tête, à l'école primaire, nous savons qu'il y a des instructions qui demandent que le chef d'établissement puisse voir comment, avec les frais de fonctionnement, peuvent acheter des pupitres. Mais aussi, pour un chef d'établissement qui voudrait que son école soit performante, il peut songer à acheter petit à petit des ordinateurs pour les enfants, pour apprendre aux enfants à manier l'outil informatique. C'est une nécessité.
Actualité internationale.
Ce lundi 19 mai s'ouvre un forum sur l'avenir de la presse en Guinée, organisé par la Haute Autorité de la Communication. Il doit aboutir à des recommandations en vue d'un exercice libre, mais surtout responsable du journalisme en Guinée, selon les termes du communiqué. Ce forum intervient alors que la presse connaît des grandes difficultés. Professeur Mohamed Yacoub Janabi, de nationalité tanzanienne et âgé de 62 ans, a été nommé hier dimanche prochain directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour la région africaine. C'était lors d'une session spéciale du comité régional de l'OMS pour l'Afrique tenue à Genève avant l'Assemblée mondiale de la santé. Cette session spéciale a été convoquée par les États membres de la région africaine de l'OMS afin d'élire le prochain directeur régional après le décès soudain et prématuré en novembre 2024 à l'âge de 55 ans du directeur régional élu, Dr Faustine Ndugulile, lui aussi était de la nationalité tanzanienne. La nomination du professeur Janabi sera soumise à l'approbation de la 157e session du Conseil exécutif de l'OMS prévue du 28 au 29 mai 2025 à Genève. Une fois nommé, il assumera ses fonctions pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
L'invité.
Notre invité s'appelle Valérie Madianga. Il est le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il revient sur le rapport du monitoring citoyen sur l'exécution du programme de développement local de 145 territoires mené par sa structure. Il s'entretient avec Grace Amzati.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la méthodologie que vous avez utilisée dans votre démarche et combien de territoires et entités concernées?
Bon, dans notre méthodologie, nous avons sélectionné un échantillon de 20 territoires. Dans les 20 territoires, nous avons visité 11 parce que dans les 9 autres territoires, il était difficile d'accéder. Vous savez que nous avons connu des problèmes climatique, il y a eu aussi un problème de sécurité, notamment dans Popokabaka. Là, on n'a pas pu accéder pour visiter les infrastructures. Au total, une centaine qui étaient pratiquement sous examen, et c'est ce que nous avons fait. Mais avant d'y aller, nous avons collecté les documents officiels, notamment la reddition des comptes 2022-2023. Nous avons aussi vérifié tous les rapports d'exécution du budget qui sont publiés par le ministère de Finances et celui du budget. Il y a aussi quelques rapports d'évaluation des projets ou des marchés publics qui sont rendus publics par l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, ce sont ces documents-là qui nous ont permis à ce que nous puissions établir une cartographie de descente sur terrain. C'est pourquoi on a été dans les 20 territoires qui sont des territoires des provinces, notamment du Congo central, du Kwilu, Kwango, ainsi que la province du Kasaï.
Et en résumé, qu'est-ce que vous avez pu constater?
En résumé, nous avons constaté que, premièrement, nous avons noté un décalage entre le coût d'exécution des ouvrages et la qualité des ouvrages qu'on a livrés à l'État. Il y a des infrastructures aujourd'hui qui présentent déjà des malformations. Vous avez aussi des équipements qui ont été livrés qui ne sont pas de bonne qualité. Et ça, nous l'avons vu. Nous pensons que ces ouvrages peuvent coûter moins que ce que ces entreprises ont facturé à l'État. Et c'est pourquoi nous demandons qu'il faut un audit pour nous départager. Deuxièmement, nous pensons que ce qui a été fait sur le terrain ne cadre pas avec les priorités de la population. Nous avons également mené des consultations au niveau des différents territoires où nous avons relevé que les priorités réelles exprimées d'un territoire à l'autre diffèrent. Vous avez par exemple au niveau de Kamonia, dans les Kasaï, là on nous dit la priorité c'est d'abord l'électricité et la réhabilitation des routes. Si vous allez dans les territoires de Bulungu, notamment dans la commune rurale de Djouma, là, et ils ont besoin par exemple des réhabilitations du bac qui devait servir la traversée entre les secteurs de Mikui et la commune rurale de Djouma. Donc vous voyez que les priorités diffèrent d'un territoire à l'autre. Il fallait qu'il y ait un travail de fond pour déterminer les besoins. Un autre élément, le cadre de gestion de ces programmes, ces cartes de principes de gestion budgétaire qui sont édictées par le manuel de procédure qui a été validé par notre pays. C'est ça. Un dernier élément, nous avons noté que les structures qui ont été recrutées pour gérer les projets ne sont pas habilitées parce que la loi relative au marché public définit les cadres de gestion des projets et des passations des marchés publics, c'est très clair.
Et vous estimez à combien le coût de ces décalages-là entre le financement et l'exécution sur le terrain?
Donc, je peux dire que la construction des écoles et la construction des centres de santé, ce n'est pas un programme nouveau. Ce sont des programmes qui ont été déjà exécutés dans notre pays sous l'ancien président Kabila, pendant le programme des 100 jours, ainsi de suite. L'exécution n'avait jamais dépassé les 100 000 dollars. L'exécution n'avait jamais dépassé les 100 000 dollars. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 250, 280 000 dollars. Et pire encore, au niveau des centres de santé, vous dépensez plus de 250 000 dollars et vous n'équipez pas les centres de santé en matériel médicaux. Ça pose énormément de problèmes. Nous avons relevé que l'EPEDEL a boosté l'accès aux soins de santé, notamment pour les femmes, mais toutes ces femmes-là accouchent dans de mauvaises conditions parce qu'il n'y a pas d'équipement médical.
Lors de la présentation de votre rapport, il y a des ONG qui l'ont contesté, que ce soit sur le plan de la forme et du fond, notamment la CFF. Comment vous réagissez face à cette contestation immédiate?
Nous pensons que cela relève de la démocratie, des principes de débat démocratique. Nous pensons que c'est ce genre de débat qui doivent exister dans notre pays pour qu'il y ait la transparence et la redevabilité. Nous restons positifs. Nous avons recueilli les avis des uns et des autres. Ce que nous pensons pour le moment, c'est que ces agences doivent lire d'abord notre rapport et regarder les commentaires, les réponses des commentaires qu'elles nous ont adressées. Et à ce temps-là, elles peuvent voir s'il y a des décalages, elles peuvent utiliser les mêmes canaux que nous pour que la redevabilité puisse prendre le dessus.
Valérie Madianga, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Merci aussi à vous tous qui avez suivi ce journal. Au micro, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Pierre Diassinois. Le tout sous la coordination de Élisée Chikota et la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Je vous laisse en compagnie des autres programmes de Radio Okapi.